Vous écoutez Carrière Talk, le podcast dédié 100% à propulser votre carrière au niveau supérieur. Dans cet épisode numéro 8, on parle de la psychologie de négociation des offres d'emploi, et en général aussi. Alors j'ai eu le plaisir de recevoir Jean-Nicolas Ritt, qui est professeur adjoint de comportement organisationnel à l'université de McGill, dans la faculté de gestion des hôtels. Il est titulaire d'un doctorat en gestion à l'université Paris-Dauphine. Il enseigne des cours de négociation au niveau du baccalauréat, de la maîtrise et du doctorat. En 2021, il a été nommé professeur de l'année par la McGill Management Undergraduate Society. En parallèle, il gère un blog et newsletter sur la négociation très intéressant, Ritt.net, qui a été mentionné dans plusieurs médias, notamment France 24, BBC Work Life, Montreal Gazette, etc., etc., que vous pouvez trouver en barre d'infos. Alors sur ce, je vous laisse avec l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis avec Jean-Nicolas Ritt. Bonjour Jean-Nicolas, ça va bien?
Bonjour Adia, ça va très bien et vous?
Bah écoute, très très bien, on peut se tutoyer Jean-Nicolas.
On peut se tutoyer, d'accord.
Très bien en fait, pour commencer. Alors, c'est ça, écoute, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Donc, on est sur une conversation Zoom très naturelle. On va essayer de parler de négociation. Donc, en fait, pour cet épisode, comme je t'ai dit, j'ai envie vraiment que ça soit un épisode qui va donner les grandes lignes. Ben, je pense qu'on va parler pendant 30 minutes ou bien 40 minutes maximum. Mais j'ai vraiment envie de donner les grandes lignes pour les gens qui nous écoutent sur la négociation. Peut-être on va donner un four step pour conclure n'importe quelle négociation, mais peut-être on va essayer de rester dans l'exemple de négociation d'offres d'emploi. Donc c'est ça ce qui nous intéresse le plus. Puis on va parler un petit peu sur tout, ok? Donc on va essayer genre vraiment de donner la base sur la négociation. Donc c'est ça l'objectif. Alors Jean-Nicolas, pour commencer, j'ai une petite question pour toi parce que je sais que pour rappel, Jean-Nicolas est professeur à l'université de McGill. Il donne des cours en management et en négociation plus précisément. Donc, comment est-ce que tu es arrivé là-dedans, en fait? Comment est-ce que tu es tombé dans la négociation?
Moi, j'ai fait un doctorat en comportement organisationnel et donc je fais partie du département de comportement organisationnel des hôtels, la faculté de gestion de McGill. Et en fait, c'est commun pour un professeur d'arriver, de commencer à donner un cours qui est un cours central, donc le cours de organizational behavior qu'on a. Et après, au cours de ta titularisation, tu développes en fait un nouveau cours et ça fait partie du processus normal pour un professeur. Donc, il y avait plusieurs options de cours que je pouvais développer. Mais j'ai été très attiré par celui qui était pour la négociation puisque c'était vraiment un cours qui était très différent de tous les autres cours que je pouvais donner parce que c'était pas forcément un cours très académique mais plus un cours où on apprend vraiment aux gens à faire quelque chose qui est utile pour eux avec aussi des résultats immédiats, c'est-à-dire que les gens immédiatement peuvent voir que ça a un impact sur leur vie. Donc ça m'a vraiment attiré de pouvoir développer un cours comme ça et enseigner ce cours-là à l'université.
Puis surtout que c'est un cours qui est pratico-pratique, bah, j'imagine qu'il y a une petite partie de théorie, non, en fait, dans les cours de négociation.
Oui. Il y a une partie de théorie, mais si tu regardes sur toutes les théories de négociation, en fait, c'est pas très compliqué. En fait, la théorie de négociation, c'est pas le plus difficile. C'est plus l'aspect mental dans la négociation qui est difficile pour les gens. Et donc, en fait, on a effectivement chaque cours, c'est environ 3 heures. Il y a une partie de 20 ou 30 minutes où je parle de théorie de négociation sur un sujet particulier. Mais après, effectivement, tout le reste, c'est de la pratique. Tout le reste, c'est des simulations, c'est faire de débriefs de négociations en vie réelle et tout ça. Donc, l'objectif, vraiment, c'est un peu comme un workshop ou un peu comme un atelier où tu dois apprendre à faire quelque chose. C'est pas juste recevoir de l'information, c'est apprendre à utiliser ça dans le monde réel.
En parlant d'aspect parce que tu as parlé d'aspect mental sur ça, en fait, il y a un côté mindset sur la négociation. Ouais. Première question, pourquoi tu penses que les gens ont autant peur de la négociation?
Je pense qu'il y a clairement une majorité de la population, quand tu regardes les études qui sont faites de personnalité, qui ont des problèmes avec la gestion des conflits. Et donc, la difficulté, c'est qu'il y a plusieurs approches pour gérer les conflits. Et effectivement, souvent, quand on n'a pas envie de les gérer ou quand on a peur de comment ça va se passer, on tend à les éviter. Donc, ça veut dire que la majorité des gens, ils voient une situation conflictuelle, ils vont se dire « je vais l'éviter ». Donc, en gros, je ne vais pas poser la question ou je vais faire comme si j'étais OK avec le deal ou je vais faire comme si tout était bien pour moi, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas, mais je vais juste faire semblant. Comme ça, le conflit est parti, au moins pour maintenant. Donc ça, à mon avis, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est que même si une personne n'est pas si peur d'un conflit ou d'une négociation, ils peuvent juste ne pas savoir comment le formuler. Et souvent, naturellement, il nous arrive souvent de vouloir devenir agressif ou avoir peur ou rentrer dans l'attaque ou des choses comme ça, alors qu'en fait, une négociation, c'est juste poser une question, écouter une réponse, faire un argument. Donc je pense que quand les gens ont des outils pratiques qu'ils peuvent utiliser dans une négociation, la peur s'en va. Ils ont plus peur parce qu'ils savent comment parler, ils savent quoi dire et
Mais
comment
pour moi, en
réagir.
fait, moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose parce que c'est quelque chose que je crois. Je crois en ça. Je crois que les personnes qui ont vraiment peur de négociation, c'est les personnes qui ont beaucoup de croyances limitantes en tout ce qui est argent, matériel. C'est-à-dire tout ce qui est money mindset, c'est les personnes. Ces personnes-là, en fait, elles n'ont pas vraiment un bon rapport avec l'argent. Peut-être elles en ont de l'argent, peut-être elles en ont de parler argent. Elles ont beaucoup de. Elles catégorisent les personnes qui parlent argent comme personnes matérialistes, opportunistes ou quelque chose comme ça. Je pense que ça aussi, ça joue. Moi, en tout cas, je ne sais pas de mon expérience, j'ai remarqué que c'est aussi. Il y a aussi ce type de personnes qui ont vraiment peur de l'argent et c'est dû à leurs croyances limitantes sur l'argent et sur la négociation, en fait, en général.
Oui, c'est ce que tu dis, c'est intéressant parce que c'est aussi, à mon avis, relié à un biais cognitif qui est bien connu en négociation. Je ne sais pas comment il se traduit en français, en anglais on dit le fixed prime mindset, ce qui veut dire que c'est en fait la croyance qu'une négociation ne peut pas créer de valeur et qu'une négociation n'est que là pour distribuer de la valeur. Et donc en fait, ça devient un peu effrayant, je pense, pour quelqu'un qui est sur le marché du travail, parce qu'il se dit que chaque dollar qu'il va prendre, il va le prendre de la poche de l'employeur, et donc va falloir expliquer, va falloir motiver, ça va peut-être créer une dynamique difficile, etc. Alors qu'en fait, si tu commences à réfléchir à négocier plusieurs choses en même temps et pas seulement une, tu peux vraiment voir comment est-ce que des différences de préférence, en fait, peuvent créer de la valeur. Peut-être que, en fait, l'employeur, il n'est pas fixe, il peut pas augmenter le salaire, mais peut-être qu'il peut changer les heures de travail, ou peut-être qu'il peut rajouter du training, ou peut-être qu'il peut rajouter d'autres choses comme ça, ou des opportunités de promotion. Donc, en fait, je pense que souvent, on a juste l'impression que la valeur, elle est fixe et qu'on essaie juste d'avoir une part du gâteau. Et donc, il y a vraiment deux approches face à ça. C'est soit tu essayes d'avoir la part du gâteau la plus grande possible, et c'est en général les gens plus de nature agressive, soit tu laisses l'autre personne prendre tout le gâteau parce que tu sais même pas comment demander une part du gâteau. Tu oses pas et tu sais pas comment le faire. Donc c'est vrai, en fait, je pense qu'il y a effectivement, mais ce que tu dis aussi, c'est intéressant en termes de perception de l'argent. À mon sens, les employeurs bénéficient beaucoup que l'argent ce soit un peu tabou et que les gens ne le discutent pas. Parce que si tu regardes quand même dans les entreprises, le plus grand secret, ça reste encore qui est payé combien, alors qu'on sait vraiment la totalité du reste des informations. Il y a vraiment que sur le salaire, etc. Et on sait tous d'ailleurs comment ça se passe dans les organisations quand quelqu'un se rend compte qu'il est payé moins qu'un collègue qui est moins qualifié ou quelque chose comme ça. Et donc je pense que cette espèce de tabou où on ne parle pas vraiment de salaire, ça aide aussi l'employeur à dire, enfin à éviter que l'employé négocie, parce que on n'a pas vraiment de point de comparaison et puis c'est pas tellement quelque chose qu'on discute. Donc l'employé peut avoir l'impression qu'en fait c'est pas forcément approprié de parler de salaire. Parce que c'est vraiment quelque chose dont
J'aime bien
personne
ça, en
ne
fait.
parle.
En fait, t'as apporté comme une nouvelle perspective, parce que moi, je ne voyais pas vraiment les choses comme ça d'un point de vue employeur, mais là, en fait, ça donne un petit peu une petite visibilité qui est beaucoup
Ouais.
plus large par rapport à ça. Mais moi, je mettais tout sur le dos des employés, parce que je pensais que, moi, je fais partie des gens qui pensent que c'est l'employé qui doit connaître sa valeur, c'est l'employé qui doit demander c'est quoi sa valeur, c'est l'employé qui doit négocier son salaire. Mais là, quand tu as parlé, en fait, d'un point de vue d'employeur qui. C'est sûr qu'il bénéficie de ça à 100% parce qu'en fait, ce tabou sur l'argent, etc., là, je dirais pas, c'est pas une stigmatisation, mais c'est juste un tabou, en fait, sur les salaires,
Ouais.
sur l'argent, etc., etc. Puis, qui est bénéficiaire de tout ça, bah, c'est les employeurs, au final. Mais moi, en tout cas, moi, le point, je pense, pour parler des croyances limitantes pour les employés, je pense qu'il faut enlever ce tabou. Est-ce que tu as des conseils à donner pour se
Ouais.
libérer des croyances limitantes, que ce soit pour le tabou d'argent, que ce soit pour le mindset de win-lose, de tout quoi.
C'est vraiment une approche structurée à la négociation. À mon sens, une des limites principales dans la négociation, enfin, moi, donc j'ai chaque année, j'ai des centaines d'étudiants qui finissent leurs études et qui, en gros, vont commencer à négocier leur premier job. Et en fait, une dynamique que je vois, mais quasiment tout le temps, c'est les étudiants, en fait, ils réfléchissent qu'à une chose, c'est avoir les offres d'emploi. Et une fois qu'ils ont l'offre, en fait, ils n'ont pas du tout réfléchi à ce qui allait se passer juste après. Et juste après, c'est la négociation. Et là, donc, ils se retrouvent, en fait, c'est là où j'ai des emails à 11h30 du soir, la veille d'une négociation. Et en gros, je veux dire, pour me dire qu'en fait, ils avaient juste réfléchi. Maintenant, ils ont l'offre, mais ils n'avaient pas vraiment réfléchi qu'après, il faudrait négocier. Et donc, ça, à mon sens, il est déjà vraiment trop tard. Puisque c'est clairement l'inverse d'une approche structurée. Et donc l'approche structurée, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir peur de l'argent ou d'avoir honte de demander à partir du moment où on a de l'information objective. Donc si tu as de l'information objective qui te dit que les étudiants de ton école, quand ils vont sur le marché du travail, c'est à peu près ça qu'ils ont dans le secteur, si tu connais des alumni et qu'ils te disent non, mais habituellement c'est ça le salaire d'entrée, etc. Ça te donne de l'information objective. Si après toi tu réfléchis à quels sont les arguments que tu vas pouvoir utiliser pour justifier ta demande, ça aussi, si tu veux, ça enlève beaucoup de peur. C'est une fois que tu as préparé ce que tu voulais dire, il te reste plus qu'à le dire. Tu vois, t'as plus besoin d'avoir le courage de réfléchir à ce que tu vas dire. Et donc, à mon sens, ça, c'est vraiment une façon de limiter cette peur et d'aider les personnes à négocier. Mais je voudrais juste revenir un petit peu. Sur l'aspect du côté de l'employeur, parce que quand je parle donc du tabou sur le salaire, je pense que ça fait partie de plus généralement de techniques qui existent et qui, à mon sens, ont pas l'objectif de supprimer les
Clairement.
négociations, mais qui au
En bénéficie.
final suppriment
Quelque part.
au final supprime la négociation. Et donc,
Donc, en parlant, là, en fait, on a parlé des nouveaux diplômés. On a parlé un petit peu de la dynamique de préparation avant. Donc, si je conclue, c'est que moi, personnellement, je pense aussi que préparer sa négociation, c'est comme c'est la première étape, en fait. Donc, toi, ton avis, qu'est-ce que tu conseilles à tes étudiants ou même aux personnes qui sont expérimentées, en fait? C'est pas tout le monde qui est bon, en fait, en négociation. Genre, même les personnes qui sont expérimentées, je rencontre encore des personnes qui sont des consultants, des fois indépendants, qui font vraiment des erreurs de négociation qui sont énormes. Des fois, ils sont soit très agressifs, soit ils sont pas justes, soit ils partent sur des fourchettes qui sont complètement insensées, soit ils te donnent un chiffre qui est très, très petit, et t'es comme, mais c'est pas possible, est-ce qu'ils ont confiance, est-ce qu'il y a un problème de confiance, est-ce qu'il y a un problème de maîtrise, d'expertise? Donc, on se pose beaucoup de questions. Donc, pour éviter ce genre d'erreur, puis moi, je crois que j'en ai parlé dans une des vidéos. Donc, si on parle de préparation, comment ça se passe?
Si on parle de préparation, je pense que c'est, à mon sens, la préparation, c'est vraiment 80%, 90% de la négociation. Parce que pour moi, il y a un peu cette vision que je pense être fausse, qui est qu'un bon négociateur, c'est quasiment de tu sais, faire des échecs en 3D ou un truc très compliqué, tu vois, quasiment un truc de haute voltige, tu vois. Et moi, je considère que c'est pas du tout ça. En fait, une négociation, c'est vraiment juste regarder s'il n'y a pas des choses qui marchent bien ensemble et on peut faire un partenariat et puis toi, tu gagnes et puis moi, je gagne. Et donc, c'est juste créer une forme de confiance. Alors après, si tu veux, si tu vois que c'est comme ça, le principe fondamental en négociation, c'est que tu n'as de pouvoir dans une négociation que si tu as des alternatives. Si tu n'as pas d'alternative, tu n'as pas de pouvoir. Et donc, ça veut dire notamment si tu vas sur le marché du travail et que tu n'as qu'une offre, tu vas négocier cette offre-là. Mais si tu n'as pas d'alternative, tu as effectivement beaucoup moins de pouvoir. Tu as moins de façons de dire non. Tu as moins de façons de dire non, mais là, c'est juste trop bas, je vais prendre l'autre offre. Donc, ça veut dire qu'il faut de toute façon partir du principe que si on veut être en bonne position en négociation, il faut plusieurs offres. Il n'en faut pas qu'une. Et souvent, ça, c'est quelque chose qui décourage les étudiants, mais vraiment énormément, parce qu'ils disent, oh, mais c'est énormément de travail. Et je leur dis, oui, mais c'est aussi beaucoup d'argent à la fin. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en termes d'investissement, Ça prend combien de temps d'obtenir une seconde offre? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, ça peut prendre beaucoup de temps à certaines personnes, moins de temps à d'autres, mais ce qui est certain, si tu veux, c'est que si tu es dans une dynamique où tu continues à candidater, même après que tu as reçu ta première offre, tu continues à chercher à créer de l'enthousiasme autour de ta candidature, tu as plus d'opportunités. Donc vraiment, la préparation, déjà, à mon sens, ça commence, mais plusieurs mois avant, et c'est je veux pas avoir qu'une offre, même si ton objectif c'est d'aller dans cette entreprise et que ton objectif c'est de travailler avec cette personne et qui t'ont dit non, mais moi je suis vraiment intéressé à t'avoir. Il faut réfléchir quand même qu'après tu vas arriver et t'auras aucun levier, tu vois, parce que eux ils vont déjà considérer que tu vas pas candidater ailleurs, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui commence dès le début, et c'est vrai que souvent c'est un peu le problème, c'est que quand on me contacte genre la veille de la négociation, c'est déjà trop tard, tu vois, pour avoir l'alternative. Donc comme tu disais, ils ont beaucoup moins de levier quand ils arrivent comme ça dans une négociation. Donc ça, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si c'est quelque chose qui rend mal à l'aise le candidat, ça veut dire qu'il faut le faire. C'est-à-dire que si moi je vois tellement, tellement au niveau MBA ou au niveau undergrad, je vois tellement de gens et même des amis à moi qui me posent des questions de négociation, qui en fait essayent de me convaincre qu'ils ne devraient pas négocier. Ils essayent de me convaincre que non, mais je sais qu'habituellement c'est bien de négocier, mais dans cette condition-là particulière, tu vois, j'ai pas d'autres offres, ou tu vois, j'ai vraiment de la chance d'avoir cet emploi, ou etc. Donc ils essaient vraiment de me dire ça. Et ça, en fait, ce que ça montre, c'est juste une personne qui a très peur de négocier. C'est une personne qui a peur de la négociation. Et ça veut dire que si tu dois genre faire quelque chose qui te fait peur et que ça va te donner accès à quelque chose qui a beaucoup, beaucoup de valeur, en général, faut s'entraîner un peu avant. Tu vois, tu peux pas juste arriver et faire ta première performance et espérer avoir un résultat fantastique. Donc c'est pour ça que, à mon sens, préparer, commencer à négocier sur des choses de petite taille ou pas chères, négocier dans sa vie réelle, négocier différentes choses, c'est vraiment quelque chose qui peut permettre de créer une tolérance à la négociation et de montrer qu'en fait, c'est pas
Mais je
si
pense ce qui
malaisant que
arrive
ça.
avec les gens qui ont peur de négocier pour certains employeurs X, par exemple, tu vas chez, je sais pas moi, chez un employeur de rêve, une grande entreprise, tu as toujours rêvé de travailler genre dedans, et là, ils te donnent un salaire, et là, tu vois que l'équipe est bonne, les projets sont bons, etc., etc. Genre, tu te dis que peut-être c'est une chance sur 100 d'avoir ce type d'entreprise. Donc, est-ce que ça vaut le coup de pousser sa valeur, puis d'avoir cette confiance en soi qui dit non, je suis confiant, je sais c'est quoi ma valeur, j'y vais, même si cet employeur, c'est un gros risque de négocier avec, est-ce que j'y vais ou
En
pas?
fait, je pense que ce que je conseille là-dessus, c'est que en fait, je pense que l'hypothèse de départ, elle est fausse. Parce que tu vois, tu disais ce que les personnes qui candidatent, en fait, ils se disent c'est vraiment un job super. Et ça, je l'entends tout le temps. C'est un job super. L'équipe est géniale. J'ai pas envie de commencer sur un mauvais pied. Et c'est vraiment très risqué. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment risqué? Tu vois, est-ce qu'il y a vraiment un risque? Parce que moi, le risque qu'on me dit tout le temps, je veux dire, je sais pas d'où ça sort, cette légende urbaine, mais je l'entends tout le temps, qui est les étudiants me disent non, mais ils vont retirer leur offre. Ils vont retirer leur offre, tu vois. Et ça, et comme si c'était une certitude, comme si c'était quelque chose qui arrivait dans 50% des cas, tu vois, comme si ça arrivait tout le temps. Moi, j'avais fait une étude juste parce que moi, je disais à mes étudiants, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai
Et ben moi
jamais
aussi.
entendu parler d'une personne. Et donc, en fait, je pense souvent les étudiants, ils ont cette perception qui est, les étudiants ou n'importe quelle personne qui négocie, que non, mais ils vont se dire, d'abord, ils vont se dire que je suis obsédé par l'argent. Ils vont se dire que je suis obsédé par l'argent et que donc, en gros, ma motivation, c'est pas de faire partie de l'équipe, c'est pas de travailler, etc. Et la deuxième chose, c'est ils vont retirer l'offre. Ils vont juste changer d'avis. Et alors là, j'entends tous les scénarios possibles. C'est genre, non, mais entre-temps, tu vois, je vais. Entre le moment où ils m'ont fait l'offre et le moment où on va négocier, si ça se trouve, il y aura un meilleur candidat que moi. Et ils vont changer d'avis, ils vont donner l'offre à lui, et puis moi, ils vont me retirer l'offre. Enfin, tu vois, tous ces trucs qui sont basés sur rien, c'est juste des what-if scénarios, tu vois, où en gros, les personnes se mettent à avoir peur. Donc, j'avais fait une juste étude, j'avais engagé 200 participants dans un pool de participants en ligne, tu sais, qui peuvent répondre à des questions, etc. Et j'aurais posé des questions, notamment en disant. Est-ce que vous avez déjà essayé de négocier un job et est-ce que l'offre vous a été retirée? Et sur les 200, il n'y en a aucun qui a jamais eu cette situation. Et c'est 200 personnes sélectionnées au hasard en Amérique du Nord, donc aux États-Unis et au Canada. Ce que je veux dire, c'est que si c'était quelque chose qui existait de façon réelle, il devrait y en avoir une centaine à l'intérieur qui m'aurait dit, bah oui, effectivement, j'avais tel job et j'ai essayé de négocier, ils l'ont retiré. Tu vois, mais
C'est une
ça arrive
légende
pas.
urbaine, c'est
Donc en fait, je
vraiment une
pense
légende
que
urbaine.
c'est
Puis
une
moi, en
légende
fait, je
urbaine.
confirme ça et je seconde à 100% ce que tu es en train de dire parce que c'est dans la vraie vie que tu négocies pour Microsoft, pour Amazon ou pour n'importe quel truc, ton offre va pas te retirer. On n'est pas ici. En fait, dans le monde du travail, on n'est pas rendu là. On n'est pas dans un dictatorship, là. Tu sais, genre, c'est assez ouvert.
C'est
Et
ça.
puis, je pense que tout ça, c'est juste le mental qui crée ces scénarios, puis c'est de la fiction. OK? Donc, ça, c'est. On a enlevé ça. Donc,
C'est
ce qu'il faut
ça.
comprendre au final. Il y a Jean-Nicolas, tu as confirmé par des études. Moi, je confirme par ce qui est sur les, par ce qu'il y a
Ouais.
sur le terrain. Genre, c'est vraiment quelque chose à enlever de sa tête à 100%. Donc, en parlant de ça, j'ai une question pour toi. Parce qu'en fait, la plupart des gens qui me remontent ces questions, c'est les femmes et les minorités. Est-ce que tu penses que les femmes et les
Ouais.
minorités ont plus peur, ont plus ce genre de légende, ont plus ce genre de scénario dans leur tête que les autres personnes?
Oui, de toute évidence. Ça a été montré dans pas mal de recherches où les femmes et les minorités ont plus de difficultés à négocier que, en gros, que les hommes blancs. Et effectivement, c'est parce que c'est vraiment intéressant, mais t'as en gros une dynamique qui est complètement différente en termes de négociation pour les femmes et c'est une psychologie qui est différente. Et en fait, ça s'applique aux femmes et aux minorités, mais je dois quand même aussi dire que ça s'applique aussi à toutes sortes de personnes qui aussi correspondent à ça. C'est pas vraiment que genre deux catégories. J'ai aussi des hommes étudiants qui ont aussi le même problème, et j'ai des femmes étudiantes qui sont très agressives et pas du tout aucun problème pour négocier. Mais effectivement, je pense qu'en fait le vrai problème fondamental, c'est que le champ de négociation et toutes les techniques qui existent, elles ont été créées pour les gens qui vont eux-mêmes vers la négociation, c'est-à-dire qui approche les situations de négociation. Et c'est les gens qui achètent les livres, c'est les gens qui prennent les cours, etc. Et donc le truc, c'est que ils approchent une situation qui est stressante. Mais tu as aussi une autre réaction psychologique qui est d'éviter une situation qui est stressante. Et effectivement, on n'a pas grand-chose en fait à dire aux gens qui évitent la situation parce qu'ils n'achètent pas les livres. Ils veulent surtout éviter la négociation, ils prennent pas les cours, etc. Donc, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est regarder les stratégies d'évitement, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'une personne peut se dire non, mais en fait, éviter, c'est pas une bonne idée, tu vois, il va falloir que je le fasse. Et il y a notamment des études qui ont été faites sur les femmes qui ont montré qu'il y avait des techniques juste très simples psychologiques qui peuvent aider les femmes à négocier. Il y en avait une, par exemple, qui est bien connue, qui est de dire qu'en fait le mot négocier, c'est quelque chose genre qui fait peur plus aux femmes. Elles aiment pas ce mot, alors que si elles se disent qu'en fait elles sont pas en train de négocier, elles sont en train de demander, elles ont beaucoup plus confiance, tu vois, à savoir ce que c'est. Et ça, c'est parce que négocier, c'est plus abstrait que demander. Et je pense que négocier, tu te dis un peu, mais alors qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, négocier? Et je pense que si t'es pas sûr, tu vois, ça te fait un peu peur, alors que demander, tout le monde sait comment demander quelque chose. Tu peux
Je rajoute un
demander.
truc parce qu'en fait, j'ai lu la dernière fois sur LinkedIn. En fait, c'est un article qui a été, enfin, c'est une étude qui a été faite par The Female Department, j'ai oublié le nom, mais ils ont donné l'explication pourquoi les femmes, et là on parle des femmes, pourquoi les femmes en fait ont peur de négociation, ont pas agressives, ont peur vraiment de s'imposer dans le travail, etc. etc. en fait, parce que c'est toutes liées sur
Ouais.
un seul point, ok? C'est
C'est
global,
global.
c'est lié
C'est
en un seul
global.
point. Alors en fait, l'étude a dit que c'est parce que. Ils ont dit que c'est comme si que les femmes dans le upbringing des femmes, comment est-ce que la société internationale, hein, je parle d'un point de vue international, c'est pas juste culturel, mais international, les femmes ont eu des injonctions comme quoi elles doivent accepter, elles doivent se taire, elles doivent, tu sais, genre ça, c'est des injonctions qui ont été mises par la société internationale et ça,
Non,
c'est
mais
dans tous les
je suis
pays.
d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec toi, notamment sur l'aspect de l'éducation. C'est effectivement quelque chose qui continue encore. Notamment les femmes. J'ai dans le cours de négociation que je donne, que ce soit au niveau MBA ou que ce soit au niveau BCom, j'ai à peu près 85% de femmes en fait dans le cours. Et en fait, c'est un peu toujours la même histoire, avec quelques variances. Mais c'est elles me disent qu'elles veulent être gentilles. Elles me disent qu'elles veulent énerver personne, elles veulent rester bien amies avec tout le monde. Et je pense que effectivement, il y a une perception de la femme ou de la jeune femme, en tout cas, ou de la femme qui grandit, de l'enfant, qui est qu'elle doit être jolie, elle doit être gentille, elle doit être bien habillée, avoir des manières, etc. Alors que c'est vrai qu'on est beaucoup plus tolérant, par exemple, du fait qu'un petit garçon puisse, je ne sais pas, peut-être être allé se battre ou quelque chose dans ce genre-là. Ce sera beaucoup plus accepté. Si une fille va se battre à l'école, c'est une fille à problème. Il y a un problème et il faut
Exact.
le gérer avec
Exact.
psychologue, etc. Si un garçon va se battre à l'école, il y aurait beaucoup de parents qui encore aujourd'hui diraient oh ben c'est un garçon, voilà, il s'est battu, voilà. Alors que à cet âge-là, il n'y a aucune raison qu'il y ait de différence comme ça. C'est vraiment, tu vois, il n'y a pas d'hormones, il n'y a rien. Donc il n'y a pas vraiment de raison pour ça. Et donc c'est vrai que souvent, ce que je vois, c'est des jeunes femmes qui sont plutôt timides, qui veulent être gentilles et qui en gros savent pas tellement comment gérer si jamais l'autre personne s'énerve. Et c'est ça qui leur fait peur. Elles veulent pas que l'autre personne s'énerve.
Ouais. Est-ce que, en fait, pour clôturer sur ce point, c'est quoi, en fait, les conseils que tu as donnés pour les femmes et les minorités pour la négociation?
Alors, donc, il y a effectivement sur le fait de simplifier ce que tu penses être la situation, c'est-à-dire demander plutôt que de négocier. La deuxième chose qui marche bien, et ça marche notamment pour les femmes qui ont une famille, il y a eu de la recherche qui a été faite, où en fait, si les femmes ont beaucoup, beaucoup plus de chances de négocier et d'obtenir ce qu'elles veulent si elles négocient pour d'autres personnes, donc notamment pour leur famille ou pour leurs collègues. Et c'est parce qu'en fait, ça fait plus appel à un côté protecteur, à un côté collaboratif, qui correspond mieux en fait à cette psychologie que quelque chose de peut-être un peu plus masculin, qui est je veux quelque chose de mieux pour moi. C'est plus je vais prendre quelque chose de mieux pour ma tribu, pour ma communauté. Et donc ça marche notamment très bien chez les femmes qui ont des enfants, par exemple, parce que tu peux leur dire tu négocies pas que pour toi, tu vois. Tu négocies pour ton enfant.
Exact.
Mais après, ce que tu vois, en fait, donc sur le côté de jeunes femmes qui veulent être gentilles ou qui veulent pas créer de conflit ou quoi que ce soit, tout ça, en fait, ça s'enlève quand elles commencent à comprendre qu'en fait, une négociation, c'est pas du tout quelque chose de conflictuel ou c'est pas du tout quelque chose d'agressif. Et en fait, elles comprennent que à partir du moment où on sait gérer l'autre personne, même si l'autre personne commence un peu à s'énerver, on sait comment déescalader, on sait comment gérer tout ça. Il n'y a pas vraiment de raison d'éviter la négociation. Et ça, c'est vraiment, tu vois vraiment, elle s'équilibre beaucoup par rapport aux hommes, dans le sens où elle développe souvent une forme d'assertion, mais qui est peut-être moins masculine, mais qui est tout aussi forte et qui est tout aussi utile. Donc en fait, c'est juste comprendre, c'est se détacher du stéréotype. De la femme docile ou soumise ou qui demande pas ou qui doit être jolie et se taire ou des choses comme ça. Et c'est au contraire avoir le stéréotype de la femme moderne qui demande ce qu'elle veut et qui est prête à justifier pourquoi elle le veut. Et ça après vraiment tu vois plus trop de différence. Et d'ailleurs souvent même les étudiants de ma classe qui ont eu les meilleures performances de négociation, souvent ça a été des femmes.
Là, on a parlé des gens qui ont peur de négociation. J'aimerais aussi parler de mindset des personnes qui sont à l'inverse, c'est-à-dire qui sont dans l'autre extrémité, les gens qui sont là, qui viennent le
Ouais.
win-lose, là, c'est-à-dire I win, you lose.
C'est assez intéressant, effectivement. C'est plus rare de voir des gens comme ça. Et c'est peut-être aussi parce qu'en général, ils pensent qu'ils sont des excellents négociateurs et dans ce cas-là, ils prennent pas les cours de négociation, je sais pas. Mais d'ailleurs, je me méfie énormément quand les gens me disent qu'ils sont excellents négociateurs parce que, en général, ça veut pas du tout dire ce que moi je veux dire par là. Et donc, c'est pas, en général, effectivement, c'est plus les gens qui essayent de, qui voient la négociation d'un aspect compétitif. Et je pense qu'en fait, la difficulté, c'est que beaucoup, beaucoup de personnes, en fait, elles espèrent que ça va être quelque chose de collaboratif. Et en fait, ce qui est difficile, c'est quand tu es contre quelqu'un qui, lui, est pas du tout là pour collaborer, il est là pour obtenir ce qu'il veut et être sûr que toi, tu n'obtiennes rien. Dans ces cas-là, ça fait peur, en fait, aux gens de négocier comme ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet aspect compétitif, moi, j'ai eu souvent des étudiants qui étaient comme ça. C'est moins fréquent, mais c'est quand même souvent. Il faut comprendre que ça marche, mais genre que si tu négocies une fois et après tu revois plus jamais la personne. Si jamais tu dois continuer à travailler avec cette personne sur le long terme, c'est vraiment une stratégie stupide. Parce que c'est vraiment une façon de commencer en mettant l'autre personne mal à l'aise, en leur faisant se sentir mal à propos d'eux-mêmes, vraiment qu'ils n'aient pas envie de continuer à travailler avec toi. Et ce que je peux te dire, c'est que à chaque fois que moi j'ai eu des étudiants qui me disent je veux pas négocier avec elle ou je veux pas négocier avec lui, c'était toujours parce que l'autre personne était trop agressive. Il y avait une réputation dans la classe de toujours être agressif. Et à la fin, plus personne veut travailler avec eux. À la fin, ils auront finalement moins appris parce que ils pensent que l'agression en fait est la clé. Moi, je sais que si je dois choisir un peu naturellement où est-ce que j'irai, est-ce que j'irai plutôt genre à me renfermer ou à être agressif, j'irai plutôt être agressif dans cette situation-là. Mais c'est juste que c'est une approche. Il suffit de négocier deux ou trois fois en étant agressif et comprendre que ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'autre personne ne va pas continuer à collaborer. L'autre personne va devenir agressive aussi. Ou l'autre personne va éviter la négociation et t'en entendras plus jamais parler. Je pense qu'en fait, les personnes deviennent agressives parce que c'est juste une différente façon de gérer la peur, en fait. Mais c'est la même peur. C'est exactement la même chose. Ils ont tout aussi peur. C'est juste que...
La source, c'est toujours la peur.
C'est toujours la peur. Mais sauf qu'en fait, ils se disent... L'autre, il se dit, bon, bah, je vais juste faire ce qu'il me dit. Et donc, en gros, ce qu'on me dit, je vais le faire. Voilà. Et comme ça, en fait, je vais juste... il sera content. Tu vois. Et l'autre, en fait, les agressifs disent... là, dans ces cas-là, ils commencent, en général, ils commencent à s'énerver. Ils commencent à s'énerver, genre, dans leur tête, tu vois. Mais ils osent me proposer un salaire comme ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais est-ce qu'ils comprennent qui je suis, etc. Donc tu vois, c'est toujours un peu, donc ils s'énervent un peu dans leur tête sur quelque chose et ils arrivent très énervés à une situation où l'autre personne en fait n'est pas énervée du tout parce que peut-être que c'était une mauvaise compréhension, peut-être qu'en fait c'était juste une information comme ça, on va savoir. Mais effectivement, il n'y a pas il faut juste comprendre, les gens, ils sont OK pour faire ce que tu veux si c'est bien pour eux aussi et s'ils se sentent bien sur le fait qu'ils vont le faire. Donc, ça veut dire que si tu essayes de forcer quelqu'un, t'es candidat et que t'essayes de faire tu deviens agressif par rapport au recruteur et tu commences à t'énerver, etc., qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois ce que je veux dire?
Donc, ça, c'est un très, très bon point parce que c'est une psychologie, en fait. Genre derrière tout ça, c'est une psychologie, puis c'est très, très important de la comprendre. Mais une fois que vous avez la conscience de ça, vous allez pouvoir ajuster votre personnalité dans la négociation, parce que vous allez vous dire, OK, je vais être au milieu, je vais vraiment défendre ma valeur, je vais défendre mes arguments à moi, ce que je pense, mais sans faire des jeux sur la personne psychologique, sans être dans les nerfs ou bien dans l'agression malsaine, et sans me retirer et accepter tout et n'importe quoi.
Non, c'est ça. Donc, je suis d'accord avec toi.
C'est ça ce qu'on a envie de faire passer. Puis c'est mon message pour tout le monde. Donc, il faut vraiment avoir cet équilibre-là. Pour avoir cet équilibre, qu'est-ce que t'en penses? Enfin, c'est quoi le... Comment faire pour avoir... C'est-à-dire, c'est quoi les mécanismes à mettre en place?
C'est vraiment la pratique. C'est vraiment la pratique parce que si tu regardes donc le système par rapport aux menaces ou aux conflits, le système fight or flight, ça existe même genre chez les cellules, tu vois. Donc même les cellules, elles font ça. T'as des micro-organismes qui font la même chose, c'est-à-dire que soit ils fight et ils attaquent, soit ils s'échappent. Et donc nous, en fait, c'est vraiment, ça fait partie de la vie sur Terre où on n'aurait pas pu survivre sans avoir ce mécanisme de défense par rapport aux menaces, c'est-à-dire que soit on se bat, soit on s'échappe. Le problème, c'est que on vit plus dans une société naturelle, on vit plus dans un monde naturel, on vit dans une société civilisée. Où en fait la réponse de fight or flight, c'est dysfonctionnel, ça ne marche pas, ça peut pas fonctionner dans une société civilisée où en gros on est tous liés par des contrats sur le très long terme, on a des emprunts, on vit au même endroit, etc. Donc c'est en fait là où il faut réussir à développer une réaction qui soit beaucoup plus neutre et qui soit de dire plutôt explorer ce qui se passe et explorer les options. Et en fait, donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut enlever la peur, parce que c'est la peur qui crée ce fight or flight. Et donc, enlever la peur, à mon sens, c'est par connaissance basique de ce que c'est que la négociation. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que négocier, quelles sont les étapes pour préparer une négociation. Et ensuite, c'est pratique, pratique, pratique. Donc, il y a vraiment pas d'autre solution. Et c'est pour ça que moi, je sais que pour les cours que je donne de négociation, je veux pas qu'on soit trop dans la tête non plus. À faire que de la théorie et que des choses comme ça, parce que moi je sais très bien à McGill, nos étudiants, ils sont très très bons pour ça, ils sont très très bons pour faire tous les trucs conceptuels, etc. Mais c'est pas ça que je veux leur apprendre. Ce que je veux leur apprendre, c'est, je veux enlever la peur et je veux leur montrer, tu vois, c'est juste une interaction normale. Et il y a aussi quelque chose juste que je voulais dire, comment enlever cette peur? C'est que quand tu fais parler les gens qui vont négocier, tu leur fais parler de l'interaction, quel est le rapport de force entre recruteur et moi, par exemple, tu as recruteur et employé, candidat. Et à chaque fois, ils se voient comme étant cette petite chose fragile qui n'a aucune chance. C'est genre David contre Goliath, mais en gros, Goliath gagne à chaque fois, tu vois. Et ils ont vraiment pas de... Pour eux, c'est vraiment commencer. Tu imagines un peu si tu devais commencer à aller faire quelque chose et tu t'imagines déjà que tu vas perdre ou tu t'imagines déjà que l'autre personne est mieux équipée, etc. Moi, ce que je rappelle toujours à mes étudiants, c'est qu'il n'y a vraiment aucun avantage dans la vie à se considérer comme inférieur ou supérieur à quelqu'un. Je pense vraiment qu'on est tous complètement égaux et par beaucoup plus de façons qu'on n'est pas égaux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des différences de titres, de salaires, de choses comme ça. Mais le reste, quand même, tu vois, on se croise dans un supermarché, on est exactement égaux. On est vraiment, il n'y a personne qui est mieux que l'autre. Et dans ce sens-là, je pense qu'il faut juste accepter que le recruteur a plus de pouvoir. Oui, le recruteur a 20 ans de plus. Oui, le recruteur a accès à toutes ces ressources-là, mais ça reste une personne avec qui on peut discuter, ça reste une personne qui nous prend pas de haut et nous, on n'a pas de raison de se comporter comme une petite chose, tu vois.
Bah oui, clairement. Maintenant, si on a envie, pour la peur, en fait, je pense qu'on a clôturé sur ça. Moi, en tout cas, je fais partie des gens qui croient que pour enlever la peur aussi, le fait d'avoir conscience de tout ce qu'on vient de dire, là du mécanisme, du fight and truc, etc., juste d'avoir la conscience de ça. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas conscience.
C'est ça.
Qui sont encore dans du old school ou bien qui sont là, même s'ils ne sont pas dans du old school, peut-être, ça peut être des bons négociateurs. Ouais. C'est des personnes qui vont dire « Ok, moi je négocie, voilà, attends ce que je veux, etc. etc. » Ok, on va s'entendre sur un terrain d'entente, etc. Mais ils vont toujours retomber dans un mécanisme soit d'agression, ouais, soit de trucs, des automatismes, voilà. Donc c'est ça, donc avoir juste la conscience de ça et comprendre ça, et c'est la raison pour laquelle on a pris le temps de parler de ça, juste avoir la conscience de ça, déjà, ça va enlever un petit peu la peur. Aussi, ce que tu viens de dire sur voilà, le rapport entre le faible et le fort, etc., ça c'est à enlever, on est tous égaux. Donc je pense que c'est ça le mécanisme. Next step, c'est de savoir de la pratique, et je suis très d'accord avec toi. Et next step, c'est quoi le framework, le negotiation framework? Si tu peux nous donner un 3 or 4 steps.
Alors, et pour connecter ce que tu viens de dire, et c'est vrai que je suis complètement d'accord avec toi, il y a cette expression en anglais que j'aime beaucoup, qui dit « mind over mood », et qui est en gros de dire que tu peux utiliser ton esprit pour dominer, en fait, une émotion qui serait dysfonctionnelle ou une émotion qui t'aide pas. Tu vois, la peur, par exemple, quand tu es dans une situation de stress, ça peut être utile, mais en général, t'es plus utile si t'as pas peur et que tu regardes vraiment ce qui se passe et que tu prends tes décisions sans ça. Et donc, je pense que notamment le framework, c'est l'objectif d'avoir une approche structurée à la négociation. C'est d'enlever tout espace aux émotions négatives ou positives, à l'agression, etc. C'est juste de dire non, mais c'est pas du tout une question de laisser la peur envahir, parce que la peur, elle vient en fait quand on ne sait pas comment s'y prendre. On ne sait pas quoi faire. Et donc, on réfléchit à ce truc abstrait qui est négociation. Et on se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Et ça va être horrible, etc. Si tu regardes vraiment juste comment tu t'y prends, tu vois, pour la négociation, c'est vraiment très simple, tu vois. Donc, je disais, ça se prend différentes étapes. Il y a eu pas mal de frameworks qui ont été faits. Mais en gros, je veux dire, tu commences plusieurs mois en avance. Ça, c'est vraiment l'idéal, tu vois. Tu commences plusieurs mois en avance pour préparer différentes alternatives et pour aussi commencer à collecter les données sur à quoi ressemble le marché du travail où tu es. Parce que le recruteur, il a ces informations, tu vois. Donc, tu peux pas arriver à la négociation, puis toi, tu n'en as aucune. Et puis, lui ou elle, ils ont toutes ces informations. Donc, ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Et souvent, je vois les gens, en fait, ils se dépriment parce qu'ils disent « Ah, mais je sais pas, j'ai regardé sur Internet, etc. » Ça prend du temps, hein, mais il faut genre contacter des alumni, il faut contacter des amis. Tu vas pas avoir le chiffre exact. En anglais, on dit « to guesstimate ». Tu fais une évaluation à peu près, une évaluation générale. Mais au bout d'un moment, quand tu as parlé à 4-5 personnes qui genre s'y connaissent un peu, t'as vraiment un chiffre en tête et tu sais à peu près ce que tu vaux, et on t'a expliqué un peu comment les décisions sont prises. Après ça, si tu veux, c'est regarder, alors qu'est-ce que moi je veux, tu vois, qu'est-ce que je veux obtenir dans cette négociation, qu'est-ce qui est genre un objectif qui serait désirable pour moi. Et là, l'objectif pour toi, en fait, ça va être d'amener la négociation le plus vite possible ou le plus proche possible de l'objectif que tu as, si cet objectif est compatible avec l'autre personne. Et là, en fait, c'est là que tu commences à développer tes arguments. Donc, tu réfléchis à comment est-ce que je vais demander ça? Comment est-ce que je vais formuler ça? C'est souvent quelque chose que je dis aux étudiants qui viennent me voir et qui disent « Oh là là, mais comment est-ce que je vais faire? Comment je vais faire ?» Je leur dis on se rencontre pendant une demi-heure, on regarde un peu ce qu'ils veulent, etc. Je leur donne des choses à faire pour avoir des informations. Et après, je leur dis « Tu vas écrire un paragraphe qui va ressembler, qui va dire exactement ce que tu veux dire. Et ta responsabilité pendant la négociation, c'est juste de dire ça. C'est-à-dire que je veux pas que tu réfléchisses à comment est-ce que je vais dire ça. C'est pas l'objectif, c'est juste… Une façon, comme ça, tu vois, tu prends peut-être 1 heure à l'écrire, mais tu es sûr que tu vas vraiment dire exactement ce que tu veux et que tu vas pas donner des fausses impressions, des mauvaises impressions. Tu vas pas mal choisir tes mots, tu vas vraiment le dire comme il faut. Et donc, c'est juste vraiment bouger sa bouche, quoi. C'est bouger sa bouche et faire du son, quoi. C'est pas négocier. Et après, à mon sens, tu veux, c'est d'écouter ce que l'autre personne a à dire. Tu écoutes ce que l'autre personne a à dire et là, c'est juste une discussion. C'est juste une discussion sur des choses qui sont objectives, que tu as recherchées, que tu as préparées. Et après, c'est à toi de voir si c'est quelque chose que tu es prêt à faire ou pas. Mais tu vois, je pense que si tu as une approche qui est plus structurée, qui montre vraiment genre chaque étape, où en fait, c'est pas très compliqué d'appeler quelqu'un au téléphone et dire comment est-ce que ça se passe le recrutement dans votre entreprise, tu vois, c'est pas si compliqué que ça. Mais je pense que ce qui est compliqué, ce qui est compliqué, c'est quand on n'a pas regardé toutes les petites étapes et qu'on réfléchit que à la chose en global et en fait, on finit par penser qu'en fait, la négociation, c'est comme un talent qui est inné ou quelque chose où certaines personnes sont bons négociateurs et d'autres personnes sont mauvais négociateurs. Parce que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je trouve que tout le monde peut être un bon
Moi
négociateur.
aussi.
Parce qu'être un bon négociateur, pour moi, c'est tu as préparé, tu as tes alternatives, tu sais ce que tu vas dire, tu n'es pas conflictuel, tu te poses ta question. Tu fais tes arguments, t'écoutes ce qu'ils répondent. Si ça te convient, tu dis oui. Si ça te convient pas, tu remontres tes arguments ou tu expliques tes autres arguments et tu trouves un commun accord.
Donc ça, c'est le first step, c'est préparation. Second step, c'est de préparer ses arguments. Est-ce que dans ça, tu inclus son proposition, c'est-à-dire sa proposition de
Oui.
valeur?
En fait, là, c'est ça qui est très très important à mon sens. Une des plus grandes erreurs en fait qu'une personne peut faire en négociation, c'est d'oublier que l'autre personne aussi doit être convaincue que le salaire plus élevé devrait être donné ou le traitement favorable devrait être donné. Et ça, c'est quelque chose que tu as dû le voir vraiment beaucoup dans ta carrière. Moi, je sais que je le vois beaucoup quand j'interroge mes étudiants sur ce qu'ils ont préparé comme argument. En fait, ils ont souvent des arguments où ils me disent non, mais ce serait mieux pour moi. Ou ce serait bien, ou j'aurais préféré plus, tu vois. Mais c'est pas un argument, ça. Enfin, ça convainc
Exactement.
personne, tu vois ce que je veux dire. Moi, ça me convainc pas. Moi, on me dit, bah, j'en ai rien à faire que tu veuilles plus. Enfin, tu vois, c'est pas. Moi, je pense que c'est ça que tu vaux, tu vois ce que je veux dire. Et voilà. Donc, si tu veux avoir, il faut que tu trouves en fait, il faut que tu trouves là où tu peux négocier. Et ce que tu peux te demander. Et donc, je vois, par exemple, souvent, j'ai des étudiants, en fait, ils n'ont pas d'offre alternative et c'est leur premier emploi. Souvent, par exemple, ils essayent de négocier. Donc, on leur dit, tu peux essayer de négocier le salaire, mais si ça marche pas, tu peux négocier un relocation package. Tu vois? Où ils te donnent plus d'argent pour que tu puisses te relocaliser, etc. Mais, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut réfléchir aussi à la psychologie du recruteur et de dire, oui, mais il va falloir qu'à un moment, cette personne-là, il va falloir que j'arrive à la convaincre que c'est effectivement une bonne idée. Alors, comment est-ce qu'on fait pour convaincre une personne? Mais c'est soit on leur montre qu'on n'est pas exactement pareil que la grille,
Que
c'est
les autres.
ça, et qu'effectivement, dans ces cas-là, moi, je me souviens, par exemple, quand je faisais des entretiens à l'époque, quand j'étais, enfin, il y a, je sais même pas combien de temps maintenant, il y a 15 ans, je me souviens d'avoir expliqué à des recruteurs, oui, mais ça, c'est une grille qui marche pour, par exemple, toutes les écoles de commerce en France, mais moi, je suis dans le top 3. Donc, si vous voulez quelqu'un qui fait partie d'une école dans le top 3 en France, c'est pas la même chose que quelqu'un qui fait partie de la 50e. Tu vois ce que je veux dire?
Donc là, c'était la deuxième étape. Donc on a dit prepare, on a dit préparation, c'est-à-dire connaître c'est quoi sa valeur sur le marché, son salaire. Deuxième chose, c'était préparer ses arguments et sa proposition de valeur, donc tout ça. Et le third step, la troisième étape, c'était quoi?
Ce serait vraiment genre la négociation en tant que telle, et c'est réussir à avoir cette approche structurée dans la négociation, dans le processus de négociation, et donc notamment ne pas perdre son calme ou ne pas accepter, ne pas dire oui quand on veut dire non.
Exact.
Souvent, c'est un problème qui est extrêmement fréquent. C'est les gens qui disent oui alors qu'en fait ils veulent pas accepter, mais ils veulent juste, ils se sentent bloqués, ils savent pas quoi faire et donc ils disent oui. À mon sens, moi j'ai une technique que j'utilise, qu'on m'a appris il y a très longtemps et que je trouve qui marche vraiment vraiment bien pour un peu arrêter les réactions dysfonctionnelles qu'on peut avoir dans ce genre de situation là. Mais c'est de réfléchir à quel est l'objectif ultime que tu cherches à obtenir, c'est-à-dire quel est cet objectif. Et donc là, par exemple, l'objectif, ça pourrait être avoir un meilleur traitement, avoir des meilleures conditions d'emploi, par exemple. Donc ça pourrait être, donc tu as déterminé exactement ce que tu voulais. Et après, pendant la conversation, à chaque fois que tu prends une décision, à chaque fois que tu dis une phrase, tu réfléchis et tu te dis, est-ce que ça m'aide à me rapprocher plus proche de l'objectif ou est-ce que ça m'en éloigne? Et en fait, ça te permet vraiment de différencier les approches. Donc, si tu t'énerves, c'est clair que ça t'en éloigne. C'est clair que ça va pas t'aider. Si tu demandes pas ce que tu veux, c'est clair que ça va pas t'aider.
Je pense qu'on a fait le tour, hein, Jean-Nicolas. Ça a été vraiment un échange qui est vraiment de qualité, hein. Je pense c'est un épisode complet, hein, pour les personnes qui veulent enlever toutes les stéréotypes, tous les bad vibes qu'ils ont sur la négociation, les peurs, etc. Je crois que c'est l'épisode. On a tout parlé, ça a été quand même assez long. Merci beaucoup, Jean-Nicolas, pour ta participation. C'était vraiment très, comment dire, c'était très instructif et c'est life-changing, je pense, pour les gens qui ne connaissent pas la négociation. Donc, merci beaucoup à toi. Puis, pour vous, je vous dis, je vous vois dans le prochain épisode. Bye.